est 22h30 en temps universel et à Nouakchott, minuit et demi à Paris.
Afrique Soir.
Et c'est à vous, Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir, Raphaël, bonsoir à tous. Le président mauritanien Razouani, candidat à sa propre succession au scrutin présidentiel du 29 juin, il l'a annoncé aujourd'hui. Les candidatures se multiplient à l'approche du scrutin. 59 pays confrontés à l'insécurité alimentaire dans le monde, c'est plus de 280 millions de personnes qui sont menacées de famine, un phénomène qui s'est intensifié en raison des conflits au Soudan, notamment. C'est 24 millions de plus qu'il y a 2 ans, selon le réseau mondial contre les crises alimentaires. Les violences policières en 2023 au Kenya, pointées du doigt par plusieurs ONG qui dénoncent des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées. Les chiffres sont pourtant en baisse, mais accablants. Vers un procès de l'ancien dictateur gambien Yahya Jammeh, l'Assemblée nationale gambienne a voté 2 lois créant un bureau du procureur spécial ainsi qu'un mécanisme pour encadrer le processus judiciaire. Nous en parlerons avec l'invité d'Afrique Soir, Reid Brody, avocat et défenseur des droits de l'homme. Enfin, musique, Pierre Vallée nous parlera de Djemba Groove, un groupe éclectique formé par un percussionniste ghanéen et un bassiste allemand. Mais d'abord le football. La CAF a finalement tranché après l'imbroglio entre la Renaissance de Berkane et l'USM Alger. Les deux clubs n'avaient pas joué leur demi-finale aller de la Coupe de la Confédération dimanche en raison d'un désaccord portant sur les maillots du club marocain. Mais l'instance a décidé de lui donner raison. Berkane a été déclaré vainqueur 3-0 sur tapis vert, autrement dit par forfait. Cédric d'Oliveira.
3 jours d'attente et finalement cette décision en faveur de la Renaissance de Berkane. Le club marocain sort vainqueur de cet imbroglio avec l'USM Alger depuis cette demi-finale aller de la Coupe de la Confédération qui aurait dû avoir lieu dimanche. Pour rappel, la RSB ne s'est pas présentée au coup d'envoi de la rencontre, mais ses dirigeants ont expliqué leur geste par l'attitude des autorités algériennes qui ont confisqué les maillots de Berkane à l'arrivée de la délégation à l'aéroport d'Alger. Les maillots de la discorde où apparaît une carte du Maroc incluant le Sahara occidental, un territoire revendiqué par le royaume alors que l'Algérie soutient les indépendantistes du Front Polisario, un sujet sensible qui cristallise les tensions entre les deux pays depuis un demi-siècle. Sans leurs maillots, les Marocains ont décidé de ne pas jouer et la CAF a donc estimé qu'ils étaient dans leur droit sur le plan sportif. Ils ont donc gagné ce match 3-0 sur tapis vert. Il reste à l'USMA, si elle conteste la décision de l'instance, la possibilité de faire appel, voire éventuellement de saisir le tribunal arbitral du sport. Pour l'instant, les deux clubs sont censés jouer la demi-finale retour de cette Coupe de la Confédération dimanche à Berkane.
Cédric de Oliveira.
RFI à Nouakchott, 103.3 FM.
Il y a quelques instants, il a annoncé sa candidature, le président mauritanien Razouani, candidat à sa propre succession au scrutin présidentiel du 29 juin. Les candidatures se multiplient à l'approche de l'élection. On a appris également que le célèbre militant des droits humains et opposant mauritanien Biram Oulda Oul Abed, deuxième de la dernière présidentielle, était également candidat. Il a annoncé sa candidature lors d'un meeting aujourd'hui à Nouakchott. Mais il y a une candidature qui retient particulièrement l'attention des Mauritaniens, celle de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. En décembre, il a été condamné à 5 ans de prison. Il a été accusé d'abus de pouvoir à des fins d'enrichissement personnel. Ses avocats avaient alors fait appel de sa décision. L'ancien président, actuellement privé de liberté, peut-il se présenter? Cette question divise les avocats des deux camps. À Nouakchott, Léa Breuil.
Les responsables du parti en cours de création de l'ancien président ont déclaré samedi que Mohamed Ould Abdelaziz se présente sans hésitation au scrutin. Mohamed Ould Jibril, responsable du parti Front pour le Changement, dénonce une condamnation politique de l'ancien président. Selon lui, sa candidature est nécessaire pour, je cite, sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve.
90% des citoyens réclament le retour du président Mohamed Ould Abdelaziz parce qu'ils ont constaté que la situation économique s'est dégradée, la situation sécuritaire s'est dégradée. Il est en prison parce qu'il n'a pas voulu céder. Les gens voulaient qu'il quitte la scène politique. Mais lui, il a dit toujours qu'il va rester pour défendre le peuple mauritanien.
Selon Maître Taleb Kia, l'un des avocats de l'ancien président, rien n'empêche juridiquement Mohamed Ould Abdelaziz de se présenter aux élections tant que la Cour d'appel n'a pas rendu sa décision.
Dès l'instant où on a fait appel, il doit bénéficier de ses droits civiques. L'appel est suspensif parce que la condamnation n'est pas suivie d'un mandat de dépôt.
Maître Lo Gourmo, avocat de la partie civile, confirme que l'ancien président jouit encore de la totalité de ses droits civiques jusqu'à la décision, mais selon lui, sa candidature n'est pas recevable. Il met en avant l'article 28 de la Constitution mauritanienne qui prévoit que le président de la République est rééligible une seule fois.
Le texte constitutionnel mauritanien est très clair. Il a fait ses deux mandats. Ce n'est pas successif comme le Sénégal et la France. Ils font du cinéma.
Une interprétation que conteste l'avocat de la Défense. Pour valider sa candidature, Mohamed Ould Abdelaziz devra recueillir les signatures d'au moins 100 conseillers municipaux. Le Conseil constitutionnel officialisera fin mai la liste des candidats autorisés à se présenter. Léa Breuil-Nouakchott, RFI.
En bref, en Tunisie, une trentaine de professeurs de droit se mobilisent, parmi lesquels des doyens de facultés, mobilisation en faveur de la libération d'un groupe d'opposants arrêtés l'an dernier. Selon leurs avocats, ces 8 opposants auraient dû être libérés la semaine dernière à l'expiration de la durée maximale de 14 mois de détention, d'une durée préventive qui est prévue par la loi. Au Mali, les phases communales puis régionales du dialogue intermalien sont désormais terminées. La phase nationale qui est censée conclure ses travaux doit se tenir à Bamako. À partir du 6 mai, ce dialogue est présenté par les autorités maliennes de transition comme une alternative à l'accord de paix de 2015, accord qui avait été conclu avec les groupes rebelles du Nord sous l'égide d'une médiation internationale et que Bamako a rompu officiellement. Pourtant, l'organisation de ce dialogue semble progressivement révéler un autre objectif jamais affiché, la prolongation de la période de transition. David Baché.
La sécurisation de la route numéro 15, la prolongation de la transition.
Ce reportage de la télévision d'État ORTM énumère les recommandations du dialogue dans la région de Bandiagara. La prolongation de la transition y figure en bonne place. De Bamako à Kidal, en passant par Gao ou Taoudeni, on suggère un allongement d'un an, 3 ans, voire 10 ans, ou l'organisation d'élections, mais seulement quand les conditions seront réunies. S'agit-il de demandes spontanées des participants, des consignes ont-elles été données pour un plébiscite organisé de l'allongement de la période de transition qui a officiellement pris fin le 26 mars dernier? Le colonel Assimi Goïta, président de transition, avait annoncé un dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation censé permettre l'appropriation nationale du processus de paix. Pour beaucoup, et notamment pour l'ancien premier ministre Moussa Mara, ce dialogue ne doit donc pas servir d'alibi à une nouvelle prolongation de la transition.
Si c'était le lieu d'en débattre, le président devrait le dire dans son discours et ensuite on devrait le mettre dans les objectifs généraux, dans les objectifs spécifiques. Mais ça n'apparaît nulle part. Le dialogue doit se concentrer sur son objectif. Toute autre thématique n'entraînerait que de la division. Et aujourd'hui, au Mali, on n'a pas besoin de division.
L'ultime phase nationale de ce dialogue doit s'achever le 10 mai prochain. Il appartiendra ensuite au comité de pilotage du dialogue, dont les membres ont été choisis par les autorités, de faire la synthèse des propositions qui devront être appliquées.
Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a promis que des mesures de baisse des prix des denrées de consommation courante seraient prises d'ici au 15 mai. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi, il a également annoncé la mise en place d'une commission d'indemnisation des victimes des manifestations de janvier 2021 à février 2024. La faim dans le monde s'intensifie, c'est ce qu'indique le rapport annuel sur les crises alimentaires de la FAO. L'an dernier, plus de 280 millions de personnes étaient en situation de malnutrition aiguë, ce qui fait 24 millions de plus qu'en 2022. Touchée à la fois par des conflits, le changement du climat ou encore les chocs économiques, l'Afrique n'est pas épargnée par cette situation. Emma Larbi.
Au Soudan, pays plongé dans la guerre depuis un an, plus de 20 millions de personnes ont fait face à un haut niveau d'insécurité alimentaire entre juin et septembre dernier. La guerre a même des conséquences à l'échelle régionale. Le déplacement de millions de réfugiés soudanais en Centrafrique, au Tchad ou au Sud-Soudan vient fragiliser des pays déjà en grande difficulté alimentaire. Et puis en Afrique centrale, la RDC regroupe le plus de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë au monde, parmi lesquelles 3 millions d'enfants. Un phénomène aggravé directement par le conflit au Nord-Kivu. Si le rapport publié aujourd'hui aujourd'hui estime que 2 millions de personnes pourraient être sorties de l'insécurité alimentaire aiguë d'ici juin en RDC. Le nombre est à prendre avec recul, selon Aurélien Mélin, responsable urgence et réhabilitation au sein de la FAO.
Une projection qui a été produite l'année dernière, en septembre, et bien sûr avant l'escalade des violences qui a eu lieu depuis octobre 2023 dans l'est du pays. Donc ça prend pas en compte cette escalade des violences, et il faut le savoir en lisant les résultats de l'analyse.
Les vagues de chaleur extrêmes impactent aussi directement la situation alimentaire des populations. Au Mali, où les températures atteignent des records, le phénomène met largement à mal les récoltes agricoles et les ressources disponibles. Et puis pour la première fois depuis la publication du rapport, le Sénégal fait partie des pays victimes d'une crise alimentaire majeure. En cause, la situation climatique d'abord, mais aussi l'inflation des prix. Le double facteur a plongé plus d'un million de personnes dans une situation de vulnérabilité alimentaire.
Justement, le Soudan est menacé par la famine en raison de la guerre qui y fait rage depuis plus d'un an. Et aujourd'hui, la diplomatie américaine alerte sur une possible offensive imminente des paramilitaires sur la ville d'El-Fasher au Darfour. Nous sommes alarmés par des éléments faisant état d'une offensive des forces de soutien rapide et de ses milices affiliées. C'est ce qu'a dit le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller. La ville d'El-Fasher est un carrefour pour l'aide humanitaire. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 22h40 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Ce sont de nouvelles avancées dans la perspective de juger un jour les crimes commis en Gambie sous le règne de l'ancien dictateur Yahya Jammeh entre 1994 et 2017. Lundi, l'Assemblée nationale gambienne a voté deux lois créant un bureau du procureur spécial et un mécanisme encadrant le processus judiciaire. Sébastien Hémet.
C'est un pas supplémentaire vers un éventuel procès de Yahya Jammeh et ses complices. D'après les textes, le procureur sera indépendant et pourra être gambien ou étranger. Il aura le pouvoir d'enquêter sur des crimes transmis par la commission Vérité, Réconciliation et Réparation qui avait terminé ses travaux fin 2021 et avait recommandé de juger l'ex-dictateur et ses fidèles. Une partie des affaires irait devant les tribunaux ordinaires, notamment la Haute Cour et sa division criminelle spécialement créée pour se pencher sur cette époque. Les faits les plus graves seraient renvoyés devant une cour hybride Gambie-CDAO dont on attend encore la création. Ces deux textes établissent également un cadre juridique pour la protection des témoins, victimes, lanceurs d'alerte, font la promotion d'une culture de respect des droits humains et renforcent les obligations de la Gambie envers les lois nationales et internationales. On attend désormais la création de la cour hybride. Elle pourrait être approuvée au prochain sommet de la CDAO prévu en juillet. Ces statuts sont en cours de rédaction. Selon une bonne source, elle devrait rassembler juges gambiens et étrangers nommés par le président de l'organisation sous-régionale après une étude des candidatures par un comité de sélection. La cour siégera à Banjul, mais pourra organiser des procès dans un autre pays. Yahya Jammeh, en exil en Guinée équatoriale depuis 2017, ne sera donc pas forcément jugé en Gambie.
Et l'invité d'Afrique Soir est Reid Brody, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est également membre de la Commission internationale des juristes, une organisation très impliquée dans le processus judiciaire gambien concernant les crimes sous le règne de Yahya Jammeh. Il répond à Sébastien Hémet.
C'est une étape importante et qui montre aussi que la grande majorité des membres de l'Assemblée gambienne soutient le processus de justice transitionnelle, soutient la création d'un bureau de procureur, soutient l'idée d'un tribunal hybride entre la Gambie et la CEDEAO pour poursuivre les cas les plus graves, les plus emblématiques de l'ère Yahya Jammeh.
Dans combien de temps peut-on espérer voir s'ouvrir des procès de l'ère Jammeh?
On a une feuille de route. Il faut maintenant que le tribunal soit effectivement adopté dans ses statuts par la Gambie et la CEDEAO, et qu'ensuite ce tribunal soit financé, et qu'ensuite Yahya Jammeh soit livré par la Guinée équatoriale à ce tribunal qui va, il est important de souligner, représenter tous les gouvernements de la région. Le Ghana qui a perdu 44 migrants aux mains des sbires de Yahya Jammeh, le Nigeria qui en a perdu, le Sénégal dont le territoire a été utilisé comme cimetière personnel de Yahya Jammeh. Je pense qu'il y aura donc un mouvement sous-régional qui va pousser ce processus de justice.
Est-ce qu'il reste des obstacles qui pourraient empêcher la tenue d'un procès?
Je pense que le plus compliqué maintenant sera le financement du tribunal. C'est vrai que dans les tribunaux hybrides, il y a une grande fourchette de budget. Le tribunal qui a jugé Easton Abbey n'a coûté que 10 millions d'euros. Le tribunal pour le Sierra Leone, 350. Alors, il faudrait que ce tribunal puisse être souple et puisse être surtout financé et par la Gambie, la CDAO, et par la communauté internationale.
Reid Brody, avocat et membre de la Commission internationale de juristes, avec Sébastien Nemeth, RFI, 23h passées de 44 minutes à Kinshasa, direction la RDC, où Vital Kamerhe sera probablement le prochain président de l'Assemblée nationale. Sa victoire lors des primaires de mardi, où il a devancé deux de ses confrères de l'Union sacrée, lui ouvre la voie du perchoir, un poste qu'il a déjà occupé il y a 15 ans. Quel type de leadership pourra-t-il exercer? Vital Kamerhe, en privé comme en public, commence à dessiner les contours de sa future présidence. À Kinshasa, Patient Ligodi.
Vital Kamerhe se positionne comme un allié clé du chef de l'État tout en promettant une approche rigoureuse et méthodique. Il insiste sur le rôle constitutionnel de l'Assemblée nationale comme la deuxième institution de la République qu'il compte revitaliser afin qu'elle joue mieux sa mission de contrôle du gouvernement qu'il rappelle être la quatrième institution. Kamerhe rejette toute forme de flatterie et se présente comme le catalyseur des promesses et de la vision de Tshisekedi. Il souligne que la mission de l'Assemblée n'est pas de demander des comptes au président, mais plutôt de scruter l'action des ministres. Ainsi, il envisage de renforcer le contrôle gouvernemental en précisant que les manquements des ministres ne devraient pas réjaillir sur le président. Il promet des sessions hebdomadaires de contrôle de l'exécutif au cours desquelles les ministres seront convoqués par secteur pour évaluer la mise en œuvre du programme gouvernemental. Il insiste également sur l'importance de l'accès aux rapports de l'Inspection générale des finances pour l'Assemblée nationale afin de garantir une transparence et une responsabilité accrue dans la gestion publique. Cette posture sera-t-elle suffisante pour apaiser ceux qui l'accusent de vouloir se servir de ses postes comme d'un tremplin pour ses ambitions présidentielles? Des proches de Félix Tshisekedi préfèrent attendre de voir son action avant de porter un jugement. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Plusieurs quartiers de Nairobi inondés hier soir par des pluies diluviennes. Un bilan provisoire faisait état de 10 morts et de plusieurs dizaines de disparus. Le Kenya est frappé, comme plusieurs pays d'Afrique de l'Est, par la saison des pluies intensifiée par le phénomène climatique El Niño. Le Kenya, où les violences policières en 2023 ont baissé de 15% par rapport à l'année précédente, elles n'en demeurent pas moins préoccupantes. Une coalition d'organisations de défense des droits de l'homme dénonce des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées. Gaëlle Alex.
Missing Voices dénombre 118 exécutions extrajudiciaires commises en 2023. C'est 12 de moins que l'année précédente. 10 disparitions forcées ont été rapportées contre 22 en 2022. Ces chiffres restent élevés et révèlent surtout la violence systémique dont souffrent les populations pauvres du Kenya, tempère Happy Olal, le coordinateur national des Centres pour la justice sociale. Selon le rapport, les hommes entre 19 et 35 ans sont les plus vulnérables à ces violences policières qui interviennent surtout à Nairobi. La plupart des exécutions extrajudiciaires se font par balles, soit lors d'opérations anticriminelles, soit lors de répression de manifestations. Les disparitions forcées interviennent lors d'opérations antiterroristes. Leur diminution de plus de 50% laisse d'ailleurs sceptique. Les policiers ont peut-être trouvé une manière plus discrète d'exécuter leurs victimes, écrit le rapport. La question des violences policières n'est pas nouvelle au Kenya. Depuis la crise post-électorale de 2008, enquêtes et réformes se sont succédées sans grand effet. En 2023 encore, sur les 118 cas d'exécution rapportés, seuls 5 policiers ont été arrêtés. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Et restons au Kenya où les 57 hôpitaux publics du pays sont touchés par un mouvement de grève depuis la mi-mars. La situation est bien partie pour durer puisque les négociations entre syndicats et gouvernement ont échoué ce mercredi. Les revendications portent sur les augmentations de salaire et l'amélioration des conditions de travail.
RFI à Antananarive, 96 FM.
La plus grosse société minière de Madagascar en conflit avec des dizaines de familles malgaches. C'est ce que révèle le dernier documentaire réalisé par les journalistes du réseau d'investigation MALN et financé par le réseau Publier ce que vous payez, intitulé Le développement opaque d'Ambatovi. Le documentaire raconte comment les communautés implantées sur les zones d'extraction ont vu leurs conditions de vie se dégrader et pourquoi elles tiennent le géant du nickel pour responsable de cette situation. Sarah Tetto.
Malheureux, dit-il, mais certainement pas résigné. Richard Hanalarsson, cultivateur, porte la voix de 29 familles flouées, estime-t-elle, par le mini en Batouville.
Cela faisait plus de 3 générations que nous étions sur ces terres et on nous a demandé de les quitter en échange d'autres terres. On a signé un contrat, mais les responsables d'Ambatouvi n'ont pas pris leurs responsabilités. Ils ont négligé notre relocalisation. Les parcelles ne sont pas fertiles et cela nous cause de grosses pertes. Nous voulons qu'Ambatouvi nous offre un terrain plus fertile. Cela fait 8 ans qu'on n'a tiré aucun bénéfice par rapport au terrain. On demande aussi une compensation pour ces 8 années de pertes.
Présents lors de la diffusion du reportage, les responsables d'Ambatouvi ont décliné notre demande d'interview. Ils estiment avoir offert des compensations justes à la population. Interrogé, l'ONE, l'Office national pour l'environnement, dont l'un des rôles est de suivre les accords de prise en charge et de dédommagement pour éviter, entre autres, les impacts sur la population, réfute de son côté toute défaillance. Tilavne Rabefari est le chef d'unité du suivi de l'intégration de la durabilité environnementale.
C'est pas qu'on décline notre responsabilité, mais c'est pas l'ONE qui va donner des terres aux gens. Hein. On fait notre travail. Donc on réagit par faire savoir déjà la plainte au promoteur. Et c'est le promoteur qui cherche à résoudre le problème, en l'occurrence en Batouville.
Une situation qui suscite une nouvelle fois des interrogations quant aux responsabilités des pouvoirs publics en matière de développement et de défense des droits des Malagas. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
RFI, les 0h50, ici à Paris, autrement dit, 1h10.
Afrique Soir, sur RFI. Sylvie Berruet.
Les titres de l'actualité en Espagne. Le Premier ministre Pedro Sanchez annonce sur son compte X qu'il suspend ses activités. Il réfléchit à une éventuelle démission après l'annonce de l'ouverture d'une enquête contre son épouse pour trafic d'influence et corruption. Après l'adoption du Sénat américain de l'aide à l'Ukraine, le président des États-Unis Joe Biden doit promulguer le texte ce mercredi. Le Sénat a approuvé le texte à une très forte majorité. L'aide militaire à destination de l'Ukraine va pouvoir être débloqué. Le Hamas a diffusé une vidéo d'un otage israélo-américain enlevé le 7 octobre et dans laquelle celui-ci fustige le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Dans le même temps, Israël dit avancer sur son opération militaire à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Qui sont les gagnants de l'envolée des cours du cacao parmi les producteurs africains de fèves, alors qu'en Côte d'Ivoire et au Ghana, la récolte est mauvaise. L'augmentation du prix aux planteurs limitée, les producteurs du Cameroun, du Nigeria ou de RDC se frottent les mains. Non seulement ils profitent de la hausse des cours, mais ils sont devenus des alternatives pour les acheteurs en manque de fèves. C'est Afrique Éco avec Claire Fage qui rentre de la conférence mondiale du cacao à Bruxelles.
Plafonné à 1000 puis 1500 francs CFA en Côte d'Ivoire ou leur équivalent au Ghana, le kilo de cacao s'est vendu plus de 5100 francs CFA, soit plus de 8 dollars au Cameroun, le troisième producteur africain. Omer Malédi, le secrétaire exécutif des professionnels du café et du cacao du Cameroun, se réjouit que les planteurs de son pays tirent actuellement pleinement profit de leur système libéralisé après des années difficiles.
Au Cameroun, la commercialisation est libre, elle est directe, il y a peu d'intermédiaires et le producteur camerounais, informé des cours du cacao quotidiennement, fait son marché, il fait au mieux pour gagner plus. Donc ils sont très contents actuellement que les cours sont élevés. On souhaite que ça dure, qu'ils gagnent bien et qu'ils gagnent longtemps parce qu'il y a à peine plus d'un an, on était encore au plus bas des cours. Ben, s'ils peuvent être élevés, qu'ils le soient le plus longtemps possible.
Quatrième producteur africain, le Nigeria est très sollicité ces derniers mois. Un intermédiaire présent à Bruxelles pour la conférence mondiale du cacao compte vendre 30% de fèves supplémentaires cette année aux négociants Olam et Sunbet. Immense pays mais encore petit dans le cacao, la République démocratique du Congo n'en voit pas moins affluer plein de nouveaux acheteurs en mal de fèves, constate Séraphine Toumba, qui appuie les producteurs de cacao de la région du Maïndombe et du Congo central. Dans l'ouest de la RDC pour l'ONG Trias.
De plus en plus, il y a des acheteurs qui n'étaient pas présents en RDC avant, mais qui commencent à venir. Et donc, on a maintenant l'opportunité de présenter la bonne qualité qui est aussi produite en RDC, mais aussi de bénéficier aussi des prix qui augmentent.
Le kilo de fèves qui rapportait au maximum 2,50 $ aux producteurs de ces coopératives congolaises l'an dernier a plus que doublé et l'intégralité de leurs 200 tonnes a été vendue.
Les coopératives qu'on accompagne ont la facilité maintenant d'écouler leurs produits à temps. Et donc ça ne traîne plus dans les dépôts, c'est acheté directement, même avant même d'être produit.
Le dernier lot partant ce mois-ci, les acheteurs de cacao auprès de ces coopératives congolaises devront désormais attendre les fèves de la récolte principale à partir d'août et septembre prochain. Claire Fage, de retour de Bruxelles, RFI.
Et suite demain, ce sera sur le cacao de Madagascar. Comment les problèmes logistiques contrarient la bonne humeur des producteurs du nord-ouest du pays. Afrique Soir, et c'est le moment de notre rendez-vous musical, et c'est en compagnie ce soir de Pierre Vallée. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et c'est original puisque vous allez nous parler d'un duo de 7 musiciens.
Oui, le groupe s'appelle Djemba Groove. C'est d'abord un duo, effectivement, qui au fil du temps s'est un peu étoffé pour compter aujourd'hui 7 personnes.
Alors, qui sont ces deux musiciens qui ont formé ce Djemba Groove?
Alors, nous avons d'abord Eric Owuzu, un chanteur et percussionniste ghanéen, un musicien confirmé puisqu'il accompagne déjà des figures de la musique ghanéenne comme Ebo Taylor et Pat Thomas. Et puis de l'autre côté, on a Yannick Nolting, un bassiste allemand qui a fait ses classes au Portugal, à Lisbonne précisément, et il a joué et produit pas mal de musiciens locaux.
Alors racontez-nous comment se sont rencontrés ces deux artistes aux horizons lointains.
Eh bien, ils se sont connus au Bac à Sable, ça aussi c'est original. Tous les deux habitent Berlin et leurs fils respectifs fréquentent la même école. Et ils se sont donc d'abord connus en tant que parents d'élèves, avant de découvrir qu'ils étaient tous les deux musiciens et en plus ils avaient les mêmes goûts. Et leur petit duo va naître de cette façon, se développer jusqu'à sortir un premier album, Susuma, en 2022.
Et ça donne quoi musicalement?
Alors musicalement, on est évidemment sur une base de highlife ghanéen avec de la soul et puis tout ça dans un cadre jazzy. Alors j'utilise le terme jazzy pour bien préciser que c'est pas du jazz compliqué et virtuose, mais plutôt quelque chose de décontracté, de relax à écouter. Au bar d'un hôtel de luxe, par exemple. Alors, ils viennent de sortir leur deuxième album qui s'appelle Ye Ankasa, et je vous propose tout de suite d'écouter le morceau Ewiaze.
Un cocktail. C'était Djemba Groove, présenté par Pierre Vallée, pour refermer en douceur et en groove donc cette dernière édition d'Afrique Soir. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de l'émission. À la réalisation ce soir, Jonathan Brady. Reste à l'écoute, l'info revient dans quelques secondes.
Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
est-il vraiment possible d'éradiquer le paludisme ?
Vendredi,
émission Questions de femmes, les maladies et troubles de la thyroïde.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.